Alors, tout d'abord, mon plaisir et ma reconnaissance, hein, le plaisir de retrouver à la fois donc ce séminaire-ci, avec lequel la littérature et la philosophie, d'une certaine manière, peut dialogue, et même depuis des années, implicitement. Plaisir de retrouver aussi un ami de très longue date, Frédéric Worms, et d'avoir ainsi l'occasion de discuter avec lui de questions qui nous sont chères, même si nos parcours, justement, passent par des siècles et par des problématiques très différentes. Mais je crois que on a été, Frédéric et moi, un petit peu embarrassés au moment où on s'est décidé à engager ce dialogue ici même, parce que parler des relations philosophie et littérature en comparant les problèmes qui se posent entre un certain corpus et un certain siècle, même si le terme de siècle n'est pas suffisant, et un autre, hein, d'un côté l'âge classique, de l'autre le XXe siècle, ça relève d'une gageure et c'est très embarrassant, parce que c'est un océan de questions, et le risque de la superficialité peut être redoutable. D'où le choix du format, en quelque sorte, de la séance d'aujourd'hui, qui est plutôt pour nous de revenir sur des questions précises qui se sont posées au cours du séminaire littérature et philosophie pour l'âge classique, depuis 5 ans, 6 ans maintenant que ce séminaire a lieu, et en guise de pierre d'attente, vous demander, et demander à Frédéric Worms, hein, si ces questions peuvent être formulées de la même manière pour le corpus du XXe siècle. Si elle trouve des prolongements ou pas dans le corpus qui le tient. Voilà, donc c'est un petit peu ce format-là qui nous a teinté pour éviter un océan à la fois de difficultés et de généralités. Alors, je crois qu'après 6 années de séminaire, il est intéressant pour nous aussi, hein, de jeter un regard en arrière sur ce qui a été fait. Alors, il y a une très grande diversité d'approches, mais aussi beaucoup d'échos entre ces approches, hein, selon les questions abordées, selon les auteurs abordés. Et en guise d'entrée en matière, je voudrais d'abord faire retour sur différents types de questions qui ont été posées au cours du séminaire, avec donc à l'idée la question suivante, jusqu'à quel point croissent-elles celles que vous vous posez, ou encore celles avec lesquelles la philosophie contemporaine doit composer, surtout quand elle fait sa propre histoire, d'une certaine manière, ou en tout cas l'histoire de la philosophie du XXe siècle dans ses rapports à la littérature. Alors d'abord, première série de questions sur le « et » dans littérature et philosophie. Le « et » comme lieu d'interrogation sur la relation, hein, entre deux types de discours, hein, qui, à l'âge classique, ne peuvent être ni totalement confondus, ni totalement séparés. Et en effet, ça a été un de nos partis pris, c'est-à-dire que c'est d'abord sur le « et » que nous avons voulu faire porter le questionnement, sur la relation elle-même, sur le type de relation qui peut se nouer entre ces deux ensembles de discours. C'est-à-dire, interférence, parasitage, lieu de superposition, voire parfois de confusion, ou bien rejet polémique de la figure du philosophe, ou de la figure de la philosophie, dans un certain nombre de textes, ou bien action à distance, un texte philosophique, hein, peut avoir des effets très, très éloignés, hein, de son propos initial, notamment, j'y reviendrai peut-être, dans la sphère que nous qualifierions d'esthétique. Il y a des effets esthétiques produits ou induits à très grande distance, hein, par des textes philosophiques qui ne parlent absolument pas d'esthétique, hein, et qui, du reste, l'esthétique ne s'est pas encore constituée comme telle, hein, dans le champ même de la philosophie. Donc, ces effets d'action à distance sont extrêmement intéressants. Ils sont souvent plus ou moins implicites, plus ou moins superficiels. Mais qu'est-ce donc qui est superficiel? Nous sommes aussi interrogé beaucoup, alors, sur les malentendus, je crois que c'est aussi une de vos questions, les malentendus entre le philosophe et ses autres, sur même les contresens, mais il y a des contresens féconds, et je crois qu'un des enjeux de la question littérature-philosophie, c'est de s'interroger sur la fécondité de certains contresens. Et je ne parle pas simplement de fécondité esthétique, hein, ça peut produire de jolis textes qui parlent à l'imagination, mais aussi de la fécondité de certains contresens pour l'histoire de la pensée elle-même. Les déviations introduites dans le champ même de la philosophie par telle comédie ou par tel essai ou petit traité. Et alors il faut se demander hein, si ces déviations et ces contresens comment ont-ils été féconds littérairement et philosophiquement. Bref, s'interroger sur les relations, c'est aussi s'interroger sur tout ce que le lexique nécessairement flou des influences et des mots en isme tend parfois à masquer. Et généralement, on l'a souligné, mais il se trouve que la plupart des intervenants, pour ne pas dire la totalité, n'a jamais utilisé le terme d'influence. Précisément parce que c'est un terme facile, et quand on prend pour thème, quand on essaie de thématiser la relation elle-même, on évite ce type de terme, de facilité, un petit peu magique. Alors, à l'origine, la question de la relation ne peut être dissociée de la question de la définition. Comment définit-on ce qu'est philosophie? Comment définit-on ce que nous appellerions littérature ou ce qu'on appelait alors littérature? Alors ça, c'est une autre question qui peut... Mais je crois que si on commence par ce travail définitionnel dès le début, on risque fort de s'enferrer. Hein, à trop aller au fond des définitions, on y reste. Et je crois que c'est en s'interrogeant sur ces effets d'interférence, en se laissant une marge d'indétermination sur les définitions strictes hein, de ce que La Fontaine entend par philosophe lorsqu'il utilise le mot de philosophe, ou Marivaux dans les journaux hein, entend par les philosophes quand il les compare au bel esprit, par exemple. À chaque fois, il y a des situations différentes hein, qui implique de nuancer le travail définitionnel, mais je crois que il ne faut pas commencer par là, il faut enrichir le travail définitionnel au fil de cette phénoménologie des relations. À l'origine de ce souci de décrire des partages, des passages, bien des problèmes herméneutiques concrets rencontrés quotidiennement par les critiques, par les chercheurs. Et en particulier, que se passe-t-il au juste quand la présence d'une philosophie ou de plusieurs philosophies est tellement marquée au sein de tel ou tel monde fictionnel, ou de tel ou tel essai ou petit traité, qui ne nous semble pas relever directement de la philosophie, que l'on ne peut procéder autrement que d'y faire appel pour interpréter. J'insiste sur cela parce qu'il y a des textes où les contraintes sont bien moindres hein, pour ce qui est de l'interprétation philosophique du texte. C'est-à-dire où là il faut faire toute une gamme, je crois, qui tient à la rhétorique de la lecture hein, instaurée par le texte. Jean Goldzinck, ici présent, l'avait bien montré pour les liaisons dangereuses en particulier, hein, où le passage par une interprétation philosophique est bien moins inscrit en quelque sorte dans le texte, mettons, que dans le reste de D'Alembert. Hein? Donc là, il y a un problème, même si le passage par une interprétation philosophique peut être utile, hein? Donc là, il y a toute une gamme de postures, de positions, hein? Qui ne sont pas purement aléatoires, qui ne dépendent pas purement de la réception, de l'histoire de la réception, hein? Qui tiennent de ce qu'on pourrait appeler le lecteur inscrit ou le lecteur modèle, et là, c'est très intéressant pour l'ensemble de la période. Que se passe-t-il quand on est amené à faire l'hypothèse d'une relation entre telle philosophie et tel poème, telle fable, telle pièce de théâtre, tel roman? Comment construire cette hypothèse et que faire de cette relation? Qu'est-ce donc qui fait l'importance, la force d'une référence philosophique donnée en certains moments de l'histoire de la littérature? Alors ça, c'est aussi une des grandes questions. Je crois qu'on reviendra hein, sur la question de moment qui a préoccupé notamment Frédéric Worms, hein, le moment 1900. Cette force est-elle d'abord liée hein, doit-on d'abord la mettre en rapport avec les contenus intrinsèques, internes de cette philosophie, les contenus doctrinaux, hein, ou bien cette force doit-elle être d'abord mise en rapport avec des raisons qui excèdent, hein, la philosophie en question, hein, qui la débordent. Peut-on tirer argument de cette présence locale d'une philosophie pour attribuer une identité philosophique globale à l'écrivain? Pour attribuer une identité philosophique globale à l'écrivain, La Fontaine est-il épicurien? Corneille est-il stoïcien? Cyrano est-il sceptique? La Foucault est-il, par exemple, augustinien? Alors, toutes ces caractérisations sont-elles pertinentes en droit, hein, quid juris, et productives en fait, quid facti? Remarque, tous les intervenants, là encore, s'en font garder, hein, de ce type de démarche, qui a pourtant été assez fréquente, hein, dans une certaine histoire des idées qui voulait aller vite, hein, qui attribuait des identités philosophiques, plus ou moins globales, aux écrivains en fonction de courants et de mouvements. Alors, personne ne cherchera, je crois, à dissimuler que ces questions sont difficiles. Personne ne cherchera à faire croire que la réponse va de soi et une lecture précise des œuvres elles-mêmes interdit pareille facilité. En outre, la réponse dépendra de variables fort diverses, variables qui tiennent à l'herméneutique, à l'esthétique de la réception, au découpage des corpus aussi, au découpage des corpus, les effets de collection aussi, où sont pris les corpus, les œuvres complètes, etc., qui tiennent aussi au sens et aux valeurs associées aux mots, hein, tels que philosophie, philosophe, d'un moment à l'autre, et même à l'intérieur d'un même moment, ces mots, les valeurs associées à ces mots, hein, peuvent varier considérablement d'un genre à l'autre. Au-delà d'une critique des sources, aussi minutieuse fut-elle, comment certains genres littéraires ou certaines traditions rhétoriques furent-ils liés à l'histoire de la philosophie? Ça, c'est aussi une des autres questions qui recoupe les précédentes. Non seulement à l'histoire des modes d'énonciation de la philosophie, mais aussi à l'histoire de ses objets mêmes et de ses fins, notamment lorsque l'essai devient dominant, lorsque le dialogue redevient dominant après avoir été très peu à la mode. Hein, c'est ce que dit Lamothe Levaillé lorsqu'il écrit ses dialogues à Horatius Tubero. Hein, le dialogue est tombé. Donc c'est pour ça qu'il le réinvestit. Et on en a eu de beaux exemples avec Pierre-François Moreau pour la méditation comme genre. En quel sens peut-on parler de la méditation comme genre chez Descartes? Ou avec Thomas Pavel pour l'histoire du récit à la première personne, ou avec Frédéric Cossutta à propos du dialogue chez Descartes, hein, qui est un échec d'une certaine manière, hein, quand Descartes a essayé d'écrire un dialogue, il n'a pas réussi à le terminer. Ou encore avec Pierre Canet, Olivier Bloch et Christian Bier à propos de la comédie avant et après Molière, et tout récemment avec Emmanuel Bury à propos de Lucien, hein, et de ce genre très particulier qui est la comédie des philosophes, hein, instaurée par Lucien, qui a une vie très puissante à l'âge classique et dont il faudrait suivre les vicissitudes, hein, d'Erasme à Diderot, hein, au Neveu de Rameau, en passant évidemment par toute la tradition du dialogue des morts, hein, Fontenelle, etc. Donc, voilà un exemple, hein, de genre lié aux objets mêmes de la philosophie et pas simplement à ses modes d'énonciation. Inversement, comment certains points saillants des débats philosophiques et des polémiques philosophiques furent-ils liés au statut même de l'activité littéraire dans la République des Lettres? Ça, c'est aussi une autre question. Une autre question. Comment certains points saillants des débats philosophiques furent-ils liés au statut même de l'activité littéraire dans la République des Lettres? Par exemple, hein, le débat sur l'âme des bêtes, ou sur le plaisir comme souverain bien, hein, en rapport, par exemple, avec l'écriture de la fable, avec le potentiel heuristique et éthique qu'on reconnaît aux fables, hein, La Fontaine, avec la capacité de la fable à être une fiction pleinement heuristique et pas simplement un jeu allégorique. Ou encore, le débat sur la légitimité de telle ou telle forme de savoir dans la bibliothèque selon Gabriel Naudet, là on avait une séance avec Robert Damien à ce propos, ou encore la légitimité de telle ou telle femme de savoir dans le dictionnaire de Bayle, et on travaillait avec Isabelle Delplat aussi sur cette question. Ce qui explique alors toute une série de va-et-vient entre les corpus et entre les disciplines, visant à rendre compte des passages. Et je ferai simplement une remarque que je ne développerai pas, mais qui mériterait un séminaire. En juxtaposant discours philosophique et discours littéraire au sein de grands courants ou de grands mouvements, l'histoire des idées fait parfois l'économie d'une réflexion sur la singularité des passages entre un domaine et un autre. L'histoire des idées, cette discipline, somme toute assez récente, début du XXe siècle, qui s'est déterminée en grande partie contre l'histoire de la philosophie, n'oublions pas, avec Lovejoy, fait parfois l'économie d'une réflexion sur la singularité des passages entre un domaine et un autre. Ainsi, qu'est-ce donc qui passe entre l'argumentaire anticartésien des grands textes de Gassendi et bien des années plus tard, la poétique de la fable selon La Fontaine? Qu'est-ce donc qui passe entre les lourds infolions en latin où le philologue épicurien commente Épicure et les petits traités où Saint-Evremont va faire agir l'épicurisme sur de tout autre mode et à de tout autre fin, notamment entre catégorie morale et jugement esthétique. Faire travailler l'épicurisme lorsqu'il s'agit de jugement esthétique, voilà un déplacement majeur, où là on a affaire vraiment à la fois à une perversion, à une déviation, et aussi à une expérimentation, puisque on assiste là à la genèse, d'une certaine manière, de ce qu'on appellera l'esthétique moderne, bien plus tard dans le champ philosophique. Alors, bref, on l'a maintenant éprouvé pour parodier une célèbre formule. Dans son usage de la philosophie et des questions qu'elle y puise et qu'elle lui pose, la littérature a souvent des raisons que la raison philosophique ne reconnaîtrait pas pour sienne. Mais inversement, cette raison du philosophe, jusqu'à quel point peut-on l'envisager au XVIIe siècle comme extérieure ou transcendante aux traditions poétiques, au genre, au style que nous caractériserions aujourd'hui comme essentiellement littéraires. Jusqu'à quel point certaines philosophies modernes, et par excellence celle de René Descartes, marquerait-elle une rupture aussi radicale qu'on a pu le penser dans l'histoire de la philosophie moderne, avec l'idée, au fond, de la possibilité d'une philosophie sans rhétorique, ça qui s'institue avec Descartes, qui cherche à s'instituer avec Descartes, philosophie sans rhétorique ou bien rhétoricité autre, Descartes, une rhétorique qui ne dit pas son nom, pour parodier une formule de Jean Paulhan. Bref, sur ces passages, bien des énigmes subsistent dont témoigne un certain malaise ou du moins une imprécision chronique affectant les gestes herméneutiques les plus anodins en la matière. Avant même, donc, de s'interroger sur ces passages, c'est-à-dire leurs lieux spécifiques, leurs modalités, leurs fonctions et leurs effets, eh bien, effectivement, il importe de s'interroger aussi sur les lignes de partage en chaque moment entre deux types de discours qui se renvoient les uns aux autres, très souvent, par toutes sortes d'indices, au sein de ce vaste ensemble désigné comme « res literaria ». Et avant de se demander quelles sont les procédures par lesquelles les éléments philosophiques se trouvent intégrés à des œuvres pour nous plutôt littéraires, il importe également de ne pas projeter de façon indiscrète nos propres critères ni nos propres distinctions en ce qui concerne les marques de ce qui aurait été reconnu à l'âge classique comme philosophique ou comme non philosophique. Montaigne et quelques autres, j'y reviendrai, ayant brouillé bien les cartes sans jeu de mots. Sans doute sera-t-il utile de prendre en compte, et on l'a fait aussi lors de certaines séances, dans la longue durée des vicissitudes de la réception. Par exemple, on a étudié le cas Pascal, qui selon les époques est sollicité tantôt comme philosophe, tantôt comme aphilosophe, tantôt comme antiphilosophe. Et donc là, si on suit le cas Pascal, depuis l'expérience des contemporains jusqu'à Valéry ou Blanchot, Hein, on a des figures très différentes hein, du rapport qu'on établit entre Pascal et la philosophie. Et je crois que ces études de réception sont très intéressantes pour mettre à jour les préconceptions herméneutiques dont chaque moment est consciemment ou non l'héritier hein, en ce qui concerne la philosophie et en ce qui concerne la littérature. Alors j'en viens maintenant au deuxième volet hein, de ce questionnement. Je voudrais me demander avec vous si la situation actuelle j'entends depuis les années 80, en gros, n'est pas une situation épistémologiquement favorable. Et je voudrais évoquer, mais sur un mode interrogatif, la levée graduelle de quelques obstacles à l'étude des relations entre littérature et philosophie. Le moment présent peut sembler particulièrement propice pour examiner ces questions en elles-mêmes et pour décrire ces faisceaux de relations. Bon. D'abord parce que, du fait de préoccupations propres à certains courants de la philosophie contemporaine, et là je me tourne vers Frédéric, se sont élaborées de nouvelles façons de penser qui sollicitent en permanence la littérature dans la constitution, dans leur constitution même. Donc des philosophes qui sollicitent en permanence la littérature dans leur constitution même, la philosophie, faisant planer plus d'un soupçon sur l'autonomie de la rationalité philosophique. On a parlé d'une ère du soupçon, hein, pour désigner la modernité. Je crois que l'ère du soupçon concerne aussi hein, cela, l'autonomie du discours philosophique, l'attitude de la rationalité philosophique à s'auto-fonder. L'autonomie donc de la rationalité philosophique dans la fondation et dans l'horizon de la pensée. Alors ces soupçons ont été entretenus notamment sur la scène philosophique par les héritiers de la phénoménologie, on en parlait tout à l'heure, en ses diverses composantes, husserliennes, existentialistes, et je pense qu'il faudrait y revenir, je crois, sur toute une série de textes de Merleau-Ponty, hein, très importants, par les héritiers aussi de Nietzsche. Et là, évidemment, j'aimerais m'attarder, mais j'en ai pas le temps, sur les travaux de Deleuze, dont, me semble-t-il, les études littéraires sont encore bien loin d'avoir épuisé le potentiel théorique qu'elles pourraient y trouver. Et je dirais que, lors du séminaire, notamment, hein, Dominique Magnot s'était attardé, hein, comme sur un article fondateur, sur le texte de Jacques Derrida, hein, La mythologie blanche, dans Poétique. Derrida, qui dans ce texte lui-même citait Nietzsche, malheureusement la photocopie, je n'ai pas réussi à la porter, c'est une raison de mon retard, ce texte fondateur hein, sur la métaphore, est tout à fait représentatif d'un soupçon hein, d'une certaine philosophie actuelle, ou moderne, disons, sur ce qui fonde les limites séparant l'intérieur et l'extérieur de la philosophie. Pour vous donner une idée de l'effet hein, de ce type de question sur la scène philosophique, je vous renvoie à la réaction violente d'Habermas, hein, qui apparaît à bien des égards comme un combat d'arrière-garde, qui voit dans les textes de Derrida, de ce point de vue, un rhétoricisme, c'est-à-dire un retour de la bonne vieille rhétorique à laquelle Derrida redonnerait, selon Habermas, un primat hein, sur la logique. Je vous renvoie en particulier hein, au texte d'Habermas intitulé « Discours philosophique de la modernité hein, », texte de 88, avec un chapitre intitulé « Digression sur le nivellement de la différence générique entre la philosophie et la littérature hein, ». Tout un programme. Bon, je n'ai pas le temps de détailler les argumentations d'Habermas. Dans ce texte où il accuse Derrida hein, d'évaluer la philosophie, je cite, d'après les critères de réussite d'ordre rhétorique. Et donc, d'analyser la philosophie hein, en critique littéraire, la critique littéraire étant tout sauf scientifique pour Habermas. Bon. Alors, la situation contemporaine semble assurément favorable, mais elle comporte le risque considérable de projections anachroniques hein, sur le corpus qui nous a préoccupés, c'est-à-dire essentiellement hein, de Montaigne à Diderot et un peu au-delà. Dans l'un ou l'autre cas, en effet, et je pense aussi bien à Derrida qu'à Habermas, il y a un certain nombre de présupposés diffus qui ne valent pas nécessairement pour l'âge classique. D'abord, l'assimilation de la rationalité philosophique à l'idée de systématicité, quitte à contester l'autonomie et la légitimité de ce discours systématique. Or, la période qui nous a intéressés, de Montaigne à Diderot, en passant par Bayle, en passant par Shaftesbury, en passant par, par d'autres, par plein d'autres, montre que ce n'est pas du tout simple, qu'il y a des états de crise et des séries complexes d'oscillations au cœur même de ce qu'on appelle la raison classique, qui a bien des clairs-obscurs, oscillations notamment entre plusieurs types de systématicité en philosophie, et qui ne sont pas du tout du même ordre pour la littérature émergente. Quand on passe du type de systématicité des néo-scolastiques institutionnalisés par l'école à celle des cartésiens et des néo-cartésiens, l'idée que l'on se fait de la philosophie n'est pas la même. Avec l'émergence de nouvelles images de la pensée associées à des mélanges parfois étranges entre philosophie et des discours autres, qu'on pourrait qualifier de littéraires, et j'aurais aimé, si j'en avais eu le temps, ouvrir une longue parenthèse sur cette métaphore du mélange. Cette métaphore du mélange a eu un rôle très important au XVIIe siècle pour désigner des types de pensées nouveaux. Et je pourrais donner deux exemples symptomatiques à propos de Montaigne, et ce n'est pas un hasard, à propos de la réception de Montaigne, de la lecture de Montaigne. D'une part, Sorel, Charles Sorel, dans la Bibliothèque française, je cite l'édition de 1667, page 80 et suivante, où après avoir parlé dans une bibliothèque, comment classer Montaigne, voilà un problème très, très concret. Eh bien, après avoir parlé des œuvres philosophiques, des œuvres de théologie, des œuvres de philosophie, il ouvre un chapitre avec des œuvres mêlées. Et à l'intérieur de ce chapitre, intitulé « Des œuvres démêlées », il ajoute un chapitre séparé, un sous-chapitre, séparé des œuvres de philosophie, contenant tout un développement sur Montaigne, avec d'une part une critique philosophique du mélange montaignien, puis une réponse à cette critique du mélange montaignien. Voilà. Donc, voyez comment, là, il y a un texte très intéressant sur les indéterminations de la place qu'il convient d'attribuer au mélange montaignien. Et c'est vraiment le terme qu'il utilise. Autre texte sur lequel j'aimerais m'attarder, je l'ai fait de façon plus argumentée dans un article qu'on vous a peut-être envoyé, entre Montaigne et Malebranche. Le texte de Malebranche, qui n'est pas sans parenté d'ailleurs avec celui de Sorel, c'est intéressant de comparer. Texte Malebranche dans De la recherche de la vérité, qui est tout à fait significatif, puisque cette critique des essais figure dans le livre intitulé De l'imagination. Or, cette critique que Malebranche fait de Montaigne révèle en creux une fascination pour les encore latente autour de Malebranche, donc en plein âge classique, pour le pouvoir de séduction inouï du texte mélangé de Montaigne. C'est-à-dire qu'il dit, c'est un imposteur, c'est-à-dire que, d'abord, il commence par dire, ce n'est que de la littérature, au fond, Montaigne ne prouve rien, il agit sur l'imagination en divertissant et en provoquant du plaisir. Bon. Si ce n'était que cela, mais il y a un deuxième temps dans l'argumentation de Malebranche, où il dit que, en réalité, par le plaisir même, Montaigne s'insinue dans la pensée, trouble les idées, Montaigne est contagieux. Il est contagieux comment? Non, précisément en touchant les imaginations par la puissance inouïe du style. Et là, il y a vraiment une analyse philosophique, une des plus puissantes qu'on ait à l'âge classique, de ce qu'est le style, qui est produite par Malebranche. Qu'est-ce qu'un style? Comment agit le style de Montaigne de façon à s'immiscer dans la pensée elle-même et à faire concurrence à la philosophie, mais par des voies tout à fait qui relèvent d'une imposture pour Malebranche. Donc réaction de la philosophie classique, mais autour de quelque chose qui est encore puissamment actif, et autour évidemment de la question de l'imagination. Alors, La situation actuelle me semble épistémologiquement favorable pour aborder ces effets de mélange. À l'intérieur même du travail sur l'histoire de la philosophie, il y a une insistance nouvelle, me semble-t-il, sur la question de la rhétoricité des philosophes. Hein, ça, c'est une question qui était plus ou moins taboue dans une histoire de la philosophie à la Guru, par exemple, qui était une histoire des systèmes. Les éléments rhétoriques et pragmatiques étant considérés comme de purs ornements accidentels, hein, mais au fond, la philosophie première, c'est ce qui compte, et tout le reste, c'est conjoncturel. Or, je crois qu'il y a une insistance particulière, hein, à la fois sur la question de la rhétorique des philosophes, sur la question de l'argumentation, hein, dans le sillage de Perelman ou d'autres, sur celle des choix successifs liés à la communication de la pensée. Or, ces choix génériques, stylistiques, ne sont pas indifférents pour la constitution de cette pensée elle-même. Je dirais aussi que, de ce point de vue-là, hein, il est extrêmement intéressant de produire une analyse de l'éthos, une analyse rhétorique de l'éthos associée aux philosophes. Parce que, véritablement, dans les passages entre la philosophie et d'autres domaines, en particulier la littérature, l'éthos attribué aux philosophes joue souvent un rôle encore plus important que les contenus éthiques, les contenus de pensée. Et notamment les formes d'anticartésianisme sur lesquelles je me suis intéressé, auxquelles je me suis intéressé dans la longue durée, montrent bien que ce qui est très souvent visé, au-delà même des thèses, par exemple le dualisme de l'âme et du corps chez Descartes, c'est l'éthos de René Descartes, ou une certaine image qu'on s'en fait, notamment à partir d'effets rhétoriques de la grande querelle qu'il a eue avec Gassendi. Et cette querelle a eu des effets très importants sur la diffusion de l'image de la pensée associée à René Descartes, mais à très très long terme, jusqu'à Voltaire et au-delà. Alors, de ce point de vue-là, la question de l'éthos pourrait être mise en relation avec... Elle n'a pas été jusqu'à présent, avec un concept créé par Gilles Deleuze, qui est le concept de personnage conceptuel dans Qu'est-ce que la philosophie? Parce que très souvent, ce que montre très bien Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie, c'est que le concept de personnage conceptuel associé au philosophe quitte les contenus mêmes de la philosophie, quitte le texte de la philosophie. Le philosophe tend à s'identifier à un certain nombre de personnages qui lui échappent, qui se mettent à vivre philosophiquement et qui se mettent donc à circuler avec des types liés à ces personnages. Je vous renvoie au chapitre de Deleuze que je n'ai pas le temps de dissocier, mais je vous signale simplement que ce chapitre peut vraiment entrer en résonance avec l'importance au XVIIe siècle et à l'âge classique dans son ensemble des vies des philosophes. Les vies des philosophes, toutes les anecdotes liées aux philosophes, Diogène Laërce revisité, etc., vont être mobilisés pour produire, pour réactiver des personnages conceptuels en relation avec certains types de postures philosophiques, mais pour faire dire effectivement autre chose à ces philosophies. Et là, ça commence à devenir intéressant. Alors, il me semble que la période actuelle est aussi intéressante parce que du côté des études littéraires, j'ai évoqué plutôt la philosophie, du côté des études littéraires et de la théorie de la littérature, il semblerait qu'un certain nombre d'obstacles et de malentendus soient sinon dépassés, du moins englobés, dans des approches plus complexes et plus nuancées que celles qui, en d'autres temps, finirent par donner, il faut bien le dire, assez mauvaise réputation à l'analyse philosophique des textes littéraires. Je me bornerai à rappeler deux types d'obstacles. Deux types d'obstacles parmi bien d'autres, qui ont pu durablement s'interposer entre, d'une part, l'historien de la littérature qui évoque la philosophie, et d'autre part, l'historien de la philosophie qui évoque la littérature. Premier obstacle massif, considérable et légitime par bien des aspects, par le souci qu'il manifesta historiquement, ce fut une certaine obsession de la spécification. Je crois qu'il y a des moments de l'histoire où on veut spécifier, plus qu'en d'autres, ce qu'est littérature et ce qu'est philosophie. Et alors, du côté de la littérature, évidemment, le concept de littérarité a été inventé et théorisé polémiquement contre divers types de pratiques, négligeant ce par quoi la littérature est littérature. Et notamment, sans doute y avait-il urgence à le faire, contre celle qui semblait présupposer l'idée d'une traductibilité possible de l'œuvre littéraire en termes philosophiques. L'idée d'une traductibilité possible, donc, de l'œuvre littéraire en termes philosophiques. Et là, je vous donnerai simplement une citation de Boris Eichenbaum dans « Théorie de la méthode formelle », texte de 1925, qui me paraît très intéressante. « Nous sommes entrés en conflit avec les symbolistes », rappelle Eichenbaum, lorsque a été élaboré, au fond, le concept de littérarité, « pour leur arracher des mains la poétique, la libérer de leur théorie de subjectivisme esthétique et philosophique et la ramener ainsi sur la voie de l'étude scientifique des faits. Libérer le mot poétique des tendances philosophiques et religieuses, de plus en plus prépondérantes chez les symbolistes, était le mot d'ordre qui rassembla le premier groupe de formalistes. Il était nécessaire d'écarter tous les compromis. L'histoire nous demandait un véritable pathos révolutionnaire, des thèses catégoriques, une ironie impitoyable, un refus audacieux de tout refus de conciliation. Ce qui importait dans notre lutte, c'était d'opposer les principes esthétiques subjectifs qui inspiraient les symbolistes dans leurs ouvrages théoriques à l'exigence d'une attitude scientifique et objective par rapport aux faits. D'où venait le nouveau pathos du positivisme scientifique qui caractérise les formalistes, je souligne, un refus des prémices philosophiques, des interprétations psychologiques et esthétiques, etc. L'état même des choses nous demandait de nous séparer de l'esthétique philosophique et des théories idéologiques de l'art. Alors je crois que cet extrait de la théorie de la méthode formelle nous rappelle que ce souci de la spécification fut historiquement dépendant, d'abord, d'un certain état de la philosophie, qui n'est évidemment plus le nôtre, deuxièmement, d'un certain usage que la critique littéraire a pu faire en Russie ou ailleurs de philosophie elle-même datée, renvoyée au nom d'une conception de la science elle-même datée, du côté d'un idéalisme, d'un subjectivisme ou d'une idéologie. Troisièmement, dépendant aussi d'évolutions très locales et spécifiques de la littérature et de l'esthétique en Europe, plus ou moins contemporaine, du symbolisme et de ce qui le suit. Or, il n'est pas impossible que bien plus tard, et je parle ici des années structuralistes, qui ont repris en grande part cet héritage-là, la relation entre littérature et philosophie ait été marginalisée en tant qu'objet d'étude par une certaine théorie de la littérature, du fait même d'un ensemble de préjugés latents à l'égard d'une critique philosophique, sans doute caricaturale, dont les formalistes avaient fait l'un de leurs mauvais autres. Deuxième type d'obstacle, lié par des voies indirectes au précédent, un ensemble de difficultés propres à une discipline nommée usuellement histoire des idées, et dont on oublie parfois, comme je disais tout à l'heure, qu'elle est assez récente en tant que discipline, manifestant tardivement sa volonté de différenciation épistémologique à l'égard de l'histoire de la philosophie, et en particulier à l'histoire de la philosophie comme histoire des systèmes. On passe d'un grand système à un autre grand système. L'histoire des idées est cette discipline extraordinairement malléable, féconde, stimulante, utile pour les études littéraires, polymorphe, elle inclut des éléments d'histoire de la littérature, de la philosophie des sciences, etc., mais elle est aussi cette discipline qui rarement se donne les moyens théoriques et pratiques de s'interroger sur les passages entre les domaines différents qu'elle sollicite, ou plutôt, elle tente à dissoudre la difficile question que j'évoquais tout à l'heure, des lignes de partage, à l'intérieur de grands ensembles de cohérences, tendances ou mouvements, caractérisés globalement en synchronie et en diachronie. D'où, dans le paysage de la recherche et de la critique d'il y a quelques années, quand je commençais moi-même mes recherches, entre ces deux types de soucis et de démarches, d'une part les tenants d'une approche scientifique de la littérarité, et d'autre part les historiens des idées, une sorte de répartition des tâches, et éventuellement des formes de dialogue, mais à grande distance, et non sans présupposer latent ou explicite des uns sur les autres. Gérard Chaumette, dans un article célèbre intitulé « Poétique et histoire », sur lequel s'ouvrait figure 3, citait dans son argumentaire la phrase suivante d'un des plus remarquables représentants de l'histoire des idées d'alors, Jacques Roger, auteur des sciences de la vie, etc. Donc il cite Jean Roger disant « L'histoire des idées n'a pas pour objet premier la littérature », ce qui réjouit Chaumette. L'histoire des idées interviendrait alors dans les propos de Chaumette comme l'exemple même d'une histoire extérieure à la littérature, histoire plus extérieure encore que celle que Lançon appelait de ses voeux. Genet poursuit, il s'agit bien ici de considérer de la littérature, mais en la traversant aussitôt, pour chercher derrière elle des structures mentales qui la dépassent et qui hypothétiquement la conditionnent. Alors, littérature et philosophie, revenir sur le « et », insister phénoménologiquement sur le « et », sur les faisceaux de relations diverses et mobiles entre littérature et philosophie, ne serait-ce pas résister à ce trop passif et schématique, et je mets des traits d'union, traverser aussitôt pour chercher derrière elle. Métaphore spatiale qui semble en dire assez long sur une certaine vision de ce que peut être le statut de l'idée en littérature. L'idée est derrière. Hein? Le texte, ou avant le texte, elle n'est pas dans le texte, en quelque sorte. Hein? Sur le type de pensée, hein, présupposé sur le type de pensée dont la littérature en tant que telle serait capable. Ne serait-ce pas également, sans se crisper artificiellement sur la définition a priori des corpus, mais en décrivant les effets induits par tel ou tel texte, se donner aussi les moyens de rester dans le texte sans le traverser aussitôt, je parle du texte littéraire, et de s'interroger sur ce que tel ou tel élément philosophique, référence précise, allusion à tel ou tel débat, philosophème surdéterminé, permet à l'écrivain d'exprimer, de figurer, d'imaginer, d'instituer fictivement ou de solliciter chez ses lecteurs. Alors, insister phénoménologiquement sur le « et » conduit alors à transgresser les limites entre genre fictionnel et genre non-fictionnel, hein, dont il est question dans ce séminaire, à étudier pour eux-mêmes le déplacement de la relation entre littérature et philosophie dans les univers de fiction tout au long de l'âge classique, par exemple, de se donner pour tâche de retracer l'histoire de leurs interférences avec les différents degrés de consistance ontologique attribués au monde fictif. Et cela, les différents degrés de consistance ontologique attribués au monde fictif, ont des relations certaines avec l'histoire de la philosophie, avec l'histoire de la pensée. Leurs effets directs et indirects sur les paysages fictionnels, pour utiliser la terminologie de Pavel dans les univers de fiction, en fonction desquels les genres littéraires se configurent et se reconfigurent, problématisent leurs formes d'utilité et de plaisir, thématisent leurs normes, leurs écarts, leurs valeurs. Alors ce programme de recherche ambitieux, sans doute utopique, eh bien, certaines des interventions nous ont orientés vers lui et ont permis d'entrevoir comment tant de coups de sonde sa richesse potentielle. Ainsi, que signifie user et parfois abuser des figures de l'atomisme épicurien dans une fiction comme L'autre monde de Cyrano de Bergerac? Ou plus largement, user et abuser de certains philosophèmes issus du matérialisme libertin ou des débats autour de l'occasionnalisme en tel ou tel lieu stratégique de la comédie moliéresque. Hein, là, je fais référence à une contribution d'Olivier Bloch sur ces questions à propos de Molière et la philosophie. Ou encore, dans quelle mesure les polémiques anticartésiennes sur la scène de la querelle philosophique et le jeu de la fin sur celle de la comédie ont-elles pu localement, même à très grande distance, même fictivement, entrer en résonance l'une avec l'autre? Ou encore, que signifie pour tout un ensemble d'écrivains donner des signes d'anticartésianisme? Voilà. Alors, au-delà de telle ou telle thèse, en quoi l'ironie à l'encontre de Descartes, de son ethos propre, des nouvelles images de la pensée qui lui sont associées, trahit-elle un malaise touchant au statut de l'imagination littéraire? Malaise touchant au statut de l'imagination littéraire et au paysage ontologique que supposent en leur poétique des œuvres comme les fables de La Fontaine. Alors, cela m'amènerait peut-être à faire une digression, une petite digression, sur le cas, un des cas qui m'a le plus préoccupé, effectivement, qui est le cas de l'épicurisme, et où les références à l'épicurisme constituent, dans des domaines non philosophiques ou non directement philosophiques, un véritable habit d'Arlequin, hétérogénique. Et je ne crois pas qu'on puisse parler, comme le fait l'histoire des idées, de mouvement ou de courant à propos de l'épicurisme. Hein, ça sont les métaphores dont sont friands les historiens des idées. Or, précisément, selon moi, les figures de l'épicurisme, telles qu'elles travaillent dans les fictions de Cyrano de Bergerac, dans les Fables de La Fontaine, dans les Essais de Saint-Évremond et ailleurs, ne constituent pas un courant. Et du reste, si vous lisez l'article Épicurisme de l'encyclopédie, Diderot finit l'article par une longue énumération de noms qui, pour nous, ont très peu de rapport les uns avec les autres. Hein. C'est un habit d'Arlequin, allant jusqu'à Madame de La Fayette, La Rochefoucauld, etc. Et néanmoins, Diderot, si Diderot le fait, c'est que bien évidemment, il y a l'intuition que quelque chose passe entre certaines formes d'épicurisme et diverses formes de littérature, quelque chose passe qui nous échappe peut-être en partie, partiellement. Alors, la question qui se pose avec insistance pour le chercheur, en relisant le corpus philosophique, c'est-à-dire en se replongeant dans les opéras omnia de Gassendi, par exemple, des milliers de pages en latin, pour essayer de comprendre ce qui a pu être disséminé, la question qui se pose est alors, par où commencer? Par où commencer? Est-ce qu'il faut commencer par le plaisir, question d'éthique? Est-ce qu'il faut commencer par des questions plus techniques, liées à la pluralité des mondes, à la physique? Par où commencer pour saisir, au fond, la puissance de discrimination d'un corpus? Alors, j'ai beaucoup hésité en ce qui concerne le cas de l'épicurisme et de ses variations, et j'évoquerai cinq hypothèses de travail. Soit une première hypothèse de travail, plus que des thèmes épicuriens épars, c'est peut-être une certaine image de la pensée que cette première relecture du corpus philosophique viserait à ressaisir en ce mouvement constitutif pour mieux comprendre la diversité de ses effets hors philosophie. Une certaine image de la pensée. L'image de la pensée en littérature est difficile à saisir phénoménologiquement. Ses signes, par exemple, dans le cas de l'épicurisme, âme des bêtes, double trésor de l'âme humaine, comme dit La Fontaine, référence aux atomes, à la pluralité des mondes, au vide. Donc ces signes disent à la fois bien moins et bien plus que la pensée philosophique originelle qu'elle exprime. Moins, car les références disséminées à la philosophie sont coupées de l'ensemble conceptuel qui leur donne sens. Plus, car ces références indiquent aussi souvent implicitement la situation historique d'une philosophie. La situation historique d'une philosophie dans la République des Lettres, au sens le plus large, ce que cette philosophie permet de récuser, ce qu'elle permet de critiquer, ce qu'elle permet d'évaluer, ce qu'elle permet aussi d'imaginer. Sur un plan méthodologique, saisir le mouvement et la variété des images de la pensée, liées par exemple à la philosophie de Gassendi, implique de résister simultanément à trois types de tentations. Donc les trois tentations du chercheur. Première tentation, celle qui consisterait à assigner une identité philosophique précise et en quelque sorte stable, voire définitive, à l'écrivain qui se dit disciple du philosophe. Ainsi quand La Fontaine, dans le poème du Quinquennat, se dit disciple de Lucrèce pour une seconde fois. Première fois étant le discours à Madame de La Sablière. Deuxième tentation, la tentation inverse qui consisterait à supposer trop vite que l'écrivain, usant de toutes sortes de références philosophiques, n'adhère à aucune. Et, variante moderne, au fond, que ces références philosophiques sont toutes au service d'une poétique. Toutes au service d'une poétique et des effets qu'on en attend. Troisième tentation, la tentation positiviste, si l'on veut, pour parler comme Eichenbach, mais dans un autre sens, qui tournant le dos aux deux précédentes, se bornerait à une recherche des sources et des influences de façon trop précise et univoque. Ceci vient de Gassendi, ceci de Lucrèce, ceci de Plutarque, de Cicéron, de Montaigne. Entreprise qui, du reste, serait très aléatoire puisque les mêmes éléments, sans cesse repris et commentés, transitent à l'âge classique d'un texte à l'autre. D'où une seconde hypothèse de travail, pour les auteurs comme Pierre Bayle, et là je vous renvoie à l'étonnante référence à Gassendi dans l'article Zénon du dictionnaire, pour les auteurs comme Gibbon aussi, la diffusion de l'épicurisme gassendien s'associera plus largement à une certaine situation des lettres dans le champ du savoir. Rétrospectivement, la philosophie de Gassendi peut apparaître comme cette philosophie de transition maintenant une continuité entre différents types de savoir. Une continuité entre différents types de savoir, une épistémologie évitant toute rupture radicale entre l'univers des anciens et l'univers des modernes, une toute rupture radicale entre le livre du monde, exploré par la science nouvelle, et le monde des livres, c'est-à-dire cette immense mémoire, où Gassendi ne cesse d'alimenter ses argumentations, et où toute une littérature peut encore reconnaître son univers propre. Or, on le sait, pour toute une postérité littéraire, l'une des caractéristiques majeures de l'image de la pensée néo-épicurienne fut son anticartésianisme. Ce qui est curieux, quand La Fontaine parle de Descartes, il dit « le rival d'Épicure ». Ça ne va pas de soi. Le rival d'Épicure comme périphrase pour désigner Descartes. Alors, je crois que ce sera très largement, effectivement, contre Descartes, qu'elle prendra un relief considérable pour des auteurs comme La Fontaine ou Saint-Évremond. Et, en réalité, cette orientation anticartésienne de l'épicurisme en littérature va bien au-delà de la querelle de l'âme des bêtes. Souvent, les historiens des idées vont restreint à cela. Ce qui m'amène à la troisième hypothèse de travail, dans ce cas précis, si le gassendisme fut perçu comme une des références philosophiques majeur résistant à la marginalisation des lettres dans l'ordre de la connaissance scientifique du monde, ça c'est un des grands problèmes de la statique, marginalisation des lettres dans la connaissance du monde. Descartes, la littérature au fond n'a plus rien à nous apprendre en matière de vérité. Cela tient peut-être en premier lieu au statut qu'il accordait, le Gassendi, à l'imagination et à sa puissance heuristique. Paris passu, progrès sous quoi, c'est un des termes, cette image d'un même pas et d'un même progrès, cette image qui revient souvent sous la plume de Gassendi, imagination et intellect vont d'un même pas, avancent ensemble, cette image traduit visuellement un point central de sa pneumatologie, mais il me semble qu'elle a pu caractériser une image de la pensée qui apparut au premier plan, bien après la mort de Gassendi, lors des querelles anticartésienne. Et il me semble que un réexamen de l'épistémologie de Gassendi, réservant à l'imagination une place centrale, permet indirectement de mieux comprendre pourquoi, par-delà cette thèse, qui tient à la gnoséologie de Gassendi, imagination et intellect avancent ensemble, important sans doute mais local, pour certains écrivains, philosophie épicurienne et expérience littéraire, ont pu aussi avancer d'un même pas. Donc Gassendi apparaît comme cette figure qui permet de penser l'avancée ensemble, contre vents et marées, si j'ose dire, de philosophie, science et littérature, entre anciens et modernes. Bon. Alors ça, évidemment, Gassendi était loin d'imaginer qu'il aurait ce statut-là 20 ans ou 30 ans après sa mort. Vous voyez ? Donc là, il y a des effets très intéressants, je crois, mais qui ne tiennent pas uniquement au contenu conceptuel d'une philosophie. Quatrième hypothèse, il serait indispensable dans cette optique d'être particulièrement attentif à la dimension proprement rhétorique et stylistique du texte philosophique, pour comprendre ses effets à distance, de procéder fréquemment par analyse linéaire, locale, aussi précise que possible, et notamment de la grande querelle avec Descartes. Indissociable de cet ethos qui sera attribué positivement à Gassendi, négativement à Descartes, par un grand nombre d'écrivains. Et indispensable aussi de voir comment s'organisent, sous la plume de Gassendi, les mouvements sémantiques subtils qui se cachent derrière des lexiques aussi simples pour nous, mais aussi fondamentaux que ceux de l'apparence. Qu'est-ce qu'une apparence? Que ceux de l'image, que ceux de la notion, que ceux de l'idée, que ceux du signe, mais de passage par excellence entre différents types de discours et de savoir, et qui ne sont pas en effet sur la littérature, qui ne sont pas en effet sur le lexique de l'idée de certains écrivains, le lexique de la notion de certains écrivains. Ainsi, quand La Fontaine dira que les premières notions que les hommes ont viennent des fables, il utilise notion dans un sens défini par Gassendi, au sens néo-épicurien, de prolepse, d'anticipation. C'est pas du tout l'idée cartésienne, c'est pas du tout ce qu'on a appelé la représentation classique, avec beaucoup de marge de manœuvre. Alors, cinquième type d'hypothèse, s'interroger alors aux marges à la fois épistémologiques et esthétiques d'une philosophie. Et s'interroger donc sur la fécondité de ces marges, sur la fécondité holistique des déviations et des contresens auxquels elles donnent lieu. Par exemple, lorsqu'on évoque la présence de plus en plus forte à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle d'un épicurisme littéraire, il importe de prendre la mesure du paradoxe et de le garder en mémoire, puisque, c'est ça le paradoxe, dans la palette des philosophies antiques disponibles, peu de doctrines ont pu inspirer d'aussi vives réticences à l'égard de la littérature, de ce que nous appelons la littérature, que l'épicurisme. Et en particulier à l'égard des fictions poétiques et de leurs effets pathogènes. Peu de courants de pensée ont aussi fermement dévalué moralement les fables, les désirs aussi non nécessaires que les représentations théâtrales, par exemple, viennent satisfaire. Les passions que le théâtre conspire à entretenir parmi les non-sages, pour Épicure, dès lors que ces passions détournent les non-sages de la recherche de la vérité. Et là, plus que tout autre auteur, par les déviations mêmes qu'il opère au sein même de l'épicurisme, un auteur comme Saint-Évremond peut nous intéresser justement pour cela. Notamment par sa pensée du plaisir qui légitime le divertissement, c'est-à-dire la nécessité pour Saint-Évremond, pour l'homme, de sortir de soi pour exprimer ce que l'on peut être. Pensée où le rôle de l'imagination, jusqu'en ses erreurs et en ses illusions, devient anthropologiquement prépondérant. Eh bien, Saint-Évremond nous aide alors à comprendre comment certaines formes d'épicurisme purent contribuer de près ou de loin à affiner, diversifier l'analyse du plaisir esthétique lui-même. Ce qui n'a pas du tout de soi quand on regarde les textes ni de Gassendi ou même les textes de l'épicurisme antique. Et en particulier, il a posé les questions suivantes. Quels sont les rapports du plaisir esthétique avec l'ennui, avec l'expérience de l'ennui? C'est un des grands, au fond, théoriciens de l'ennui, en rapport avec la question du divertissement. Qu'est-ce donc qui rend pour notre imagination telle ou telle œuvre non seulement plus divertissante, mais aussi plus intéressante, plus passionnante que d'autres, etc. Tout ça pour dire que dans les marges de la philosophie épicurienne, de nouvelles formes de pensée vont s'expérimenter sous des formes d'allure superficielle ou légère pour les philosophes. Saint-Évremond est rarement pris au sérieux par les philosophes. Du côté de la réflexion politique, les variations autour de la notion d'intérêt à partir de la conception épicurienne de l'utilitas sont alors précieuses pour ressaisir le faisceau de questions qui font de l'épicurisme moderne une des sources majeures et oubliées très souvent de l'utilitarisme à venir. Première zone d'expérimentation autour du concept d'intérêt et d'utilité chez tous ces auteurs. Du côté de la réflexion esthétique, les variations sur le plaisir, en ses rapports subjectivement et historiquement instables avec l'imagination, tout en nous situant très loin de la doctrine épicurienne orthodoxe, préfigurent, à plus d'un titre, certains glissements conduisant au questionnement d'une pensée esthétique qui ne s'est pas encore constituée comme telle dans le champ de la philosophie. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est comment, en déviant, en allant au-delà des catégories philosophiques ordinaires, notamment en évoluant dans ces zones un peu curieuses entre catégories morales et jugements esthétiques, eh bien, des auteurs de ce type peuvent anticiper sur certaines formalisations à venir, et je pense notamment à David Hume et à d'autres. Alors, en guise de conclusion, il me reste 5 minutes. Je voudrais, c'était le troisième volet, mais que je ne ferai qu'esquisser, consistant à m'interroger sur les transitions et les ruptures, c'est-à-dire les éléments pour la recherche de la spécificité d'un moment. Élément pour la recherche de la spécificité d'un moment en ce qui concerne les relations entre littérature et philosophie. Entre l'automne de la Renaissance et le siècle des philosophes, 18e siècle, y a-t-il une spécificité de tel ou tel moment dans l'histoire de ces relations? Alors cette question est extraordinairement complexe, elle n'a jamais été traitée en tant que telle dans la longue durée, et il y a des raisons, notamment sa complexité. Alors, je crois que le séminaire, depuis 6 ans, a été l'occasion d'entrevoir quelques lignes de force permettant de saisir la singularité d'un moment. Mais je ne ferai que les esquisser. On sera tenté donc de souligner au moins minimalement une première ligne de fracture, celle qui affecte en profondeur le statut ontologique et le potentiel heuristique des textes que nous qualifierons de littéraires. De quel type de savoir la littérature est-elle porteuse? De quel type de vérité la littérature est-elle capable? Il me semble que là, le XVIIe siècle marque une rupture très, très puissante. Et comme vous le savez, il est d'usage de constater, dans la nouvelle configuration des savoirs qui se met en place au seuil de ce qu'il est convenu d'appeler par commodité l'âge classique, une marginalisation progressive des lettres, et de ce qu'on appelle progressivement les belles lettres, justement, pour montrer une restriction par rapport aux bonnes lettres qui contenaient, lisait le dictionnaire de Furtière, par exemple, la physique, par exemple, la physique faisait partie des lettres pour Furtière, et la géométrie aussi. Donc, marginalisation progressive des lettres, ou plutôt de ce qu'on appellera les belles lettres, dans le champ de la connaissance scientifique du monde, comme le noteront rétrospectivement, et non sans nostalgie, quelques grands témoins. Ainsi, Gibbon, dans son premier ouvrage publié, L'essai sur l'étude de la littérature, un texte très intéressant de 1761 qui est presque jamais commenté. Il n'est pas indifférent que certaines philosophies, et c'est ce qui nous intéresse très spécifiquement, il n'est pas indifférent que certaines philosophies aient été partie prenante dans ce processus de marginalisation ou de divorce, ainsi une certaine conception du cartésianisme, alors que d'autres, et plutôt été interprétés et sollicités par l'écrivain comme des opérateurs de transition entre imagination littéraire et rationalité scientifique, entre ancien ou moderne, etc. Et ce n'est pas pur hasard si l'un des axes cardinaux, me semble-t-il, qui permettent d'interroger cette spécificité de tel ou tel moment, et qui du reste permettrait de trouver un dénominateur commun entre des cas singuliers, cet axe, ce serait celui de l'imagination. Je pense que ça, c'est une des grandes lignes de recherche. C'est-à-dire, quel est le statut de l'imagination à tel ou tel moment des relations entre littérature et philosophie? De ses effets et des fonctions qu'on lui reconnaît. Il me semble que là, il y a des retours. Il y a des retours, puisque précisément avec l'âge romantique, l'imagination reviendra au premier plan, redonnant une puissance heuristique très forte à la poésie, par exemple. Alors évidemment, avec l'âge classique, on est loin encore de l'absolu littéraire, de cette conception ou aussi de l'idée que la littérature dévoile, a une puissance dévoilement très supérieure au discours rationnel, constitutif. On est encore loin de ça. Donc on doit sans cesse osciller entre une hypothèse minimaliste et une hypothèse maximaliste, mais qui est anachronique. Hypothèse minimaliste, considérant que l'écrivain exploite certains effets de la philosophie, comme on tire parti d'une atmosphère, d'une ambiance, et puis hypothèse maximaliste qui consisterait à considérer, au contraire, que dans les très grands textes, les philosophèmes sont mis à l'épreuve en des zones critiques pour la pensée, que la littérature relance le discours philosophique vers de plus grandes profondeurs qui échappent à la philosophie, qui échappent à la philosophie, ou en tout cas à toute systématisation philosophique univoque, est tellement maîtrisée. Alors il est d'usage aussi, notamment depuis les études consacrées naguère au baroque, de rappeler sur quelle crise sans précédent, des représentations du cosmos et de la place de l'homme y tient, s'ouvre le siècle, et quelle crise également des références philosophiques faisant absolument autorité dès lors qu'il s'agit de penser l'humain. Et ça, ça m'amène à ma deuxième ligne de fracture, au fond, aussi très intéressante pour l'âge classique, je dirais plutôt une ligne d'indécision qui parcourt l'âge baroque et l'âge classique, qui est l'anthropologie, les incertitudes du discours anthropologique, incertitudes du discours sur l'homme, remettant en question l'autorité et l'autonomie du discours des philosophes sur l'homme, des désirs, des passions, des rites, des croyances, la définition même de l'homme, comment désigner les formes, les limites de l'humain. Alors je crois que là aussi, de Montaigne à Diderot, les oscillations de la relation littérature-philosophie doivent beaucoup aux multiples tensions qui traversent les formations discursives entre des anthropologies de type fixiste et des anthropologies qui relèvent de près ou de loin ce qu'on pourrait appeler les anthropologies négatives, où on ne sait pas exactement ce qu'est l'essence de l'homme, mais on va procéder par approximation. Et là, je vous renvoie au beau texte d'Agnès Minazzoli, L'homme sans image, une anthropologie négative, très intéressant, qui avait ouvert un peu le séminaire il y a quelques années. Et ces interrogations sur les formes de l'humain se constituant souvent comme un défi pour la systématisation philosophique, notamment à travers la question des passions, et nous allons commencer un cycle sur les passions, sur la nature des passions, sur leurs effets, sur leur bon usage, et là, très souvent, une nouvelle figure, qu'on va appeler, pour le meilleur et pour le pire, ultérieurement, celle du moraliste, va se dégager, va se situer à une certaine distance de la figure du philosophe. Nous avons pour projet, notamment à l'occasion d'un colloque que j'organise l'année prochaine, le 20 novembre, avec Carlo Ossola, le moraliste, la politique et l'histoire, de nous interroger véritablement sur l'émergence de cette figure du moraliste de l'âge classique jusqu'à Adorno, qui fait qu'on va avoir ces deux personnages conceptuels distincts, d'un côté le philosophe, de l'autre le moraliste, qui tantôt avancent ensemble, mais à une certaine distance, tantôt parlent l'un contre l'autre, Malebranche contre Montaigne, parce qu'il reconnaît que Montaigne, il reconnaît à Montaigne qu'il peint l'homme, mais ses effets philosophiques sont usurpés, et à Marivaux, je pense au Marivaux des journaux par exemple, où très souvent il oppose le bel esprit au philosophe en des termes extrêmement intéressants, je n'ai pas le temps de m'y attarder, tout en utilisant le terme de philosophe en lui donnant d'autres sens, des sens qu'il n'a pas en philosophie. Bref, le travail sur les incertitudes de l'anthropologie me paraît véritablement très intéressant. Et puis, je dirais pour finir, qu'il y a alors toutes sortes d'indéterminations morales, justement, en ce qui concerne l'idée qu'un philosophe puisse fonder un discours moral. Voilà un des enjeux essentiels avec l'émergence du moraliste. Cette question est notamment suggérée par le chapitre 4 du Montaigne de Friedrich. Friedrich qui relie Montaigne à la lumière de Goethe et surtout de Diderot, et qui dit qu'avec Montaigne commencerait à se développer un nouveau type de science morale, rompant notamment avec celle des théologiens et des philosophes. Bon. Avec Montaigne commencerait la littérature des moralistes, même celle de ceux qui contestent Montaigne ou refusent Montaigne, mais se situent dans un nouveau régime de discours ouvert par Montaigne, ainsi, selon Friedrich, Blaise Pascal. Alors, et notamment autour de la question de l'exemple et de l'exemplarité, il y a une autre pratique de l'exemple en littérature. La littérature donne à penser des exemples, donne des exemples sur lesquels on va essayer de construire des morales substitutives, hein, pensez à la Rochefoucauld et au grand article de Stravinsky, des morales substitutives, c'est-à-dire qui ne sont pas des morales fondées métaphysiquement sur le mode dominant en philosophie, à l'âge classique, mais des exemples que l'on va essayer de mettre en relation les unes avec les autres. Je crois que là, la question qui est posée par les moralistes, c'est qui va être posée aux philosophes, c'est ces relations sur lesquelles on va élaborer un discours moral, à partir d'exemples donnés pour réels, donnés comme purement fictifs, eh bien, ces relations ont-elles une légitimité philosophique ou pas? Est-ce qu'elles se développent en dehors de la philosophie, ou est-ce qu'on peut les redoubler par un discours philosophique fondateur? Alors, je crois que, par-delà les enjeux historiques, crise des modèles humanistes, hein, avec Montaigne, au-delà même des mutations du discours anthropologique, hein, jusqu'à quel point est-il légitime d'affirmer que ce qui se dessine pour longtemps, c'est une nouvelle ligne de partage, hein, entre ces deux personnages conceptuels distincts, hein, le moraliste et le philosophe, dont un des traits serait de donner un statut différent aux exemples dans l'approche de la morale. Et je dirais au fond que cette question, hein, est directement liée, hein, à la question aussi du langage, hein, puisqu'on est ici dans un moment où la philosophie elle-même, post-scolastique pour le dire vite, doit réajuster son rapport à la langue et à la langue française, hein, et aux critères de langue institués par qui? Pas par des philosophes, hein, par les écrivains, par l'usage, par le bel usage. Donc, cette question à la fois des incertitudes de l'anthropologie, hein, du discours sur l'homme ouvert par Montaigne, et des incertitudes du discours moral, va être directement articulée, hein, à la question de la langue, hein, comment la philosophie va-t-elle réajuster son rapport aux mots en fonction d'une nouvelle diversité des publics aussi. Ça, c'est aussi une autre question. Le public s'est considérablement élargi, hein, pour les textes de philosophie. Alors, ça, c'est une autre question. Je finirai par une petite citation de Quignard, hein, dans la rhétorique spéculative. Entre la singularité de l'exemple et la généralité de la sentence, les récits font leur chemin. Donc là, il y a une morale de la fiction elle-même. Entre le dictum impersonnalé et l'anecdote indicible, ou enfantine, ou animale, ou sexuelle, ou violente, ou biologique, le songe erre dans le langage. Voilà, j'arrêterai là-dessus.
Frédéric Worms a pris beaucoup de notes pendant ce propos très impressionnant, et on va lui passer la parole, parce que si vous voulez bien, hein, nous proposer vos réflexions, et ensuite nous essaierons d'ouvrir la discussion. Je ne pense pas que ce soit possible de la fermer. Merci Jean Chardin. Est-ce que vous prenez le petit... C'est près de vous, voilà. Oui, mais laissez-le sur le livre pour qu'il n'y ait pas trop de résonance.
Bon, donc je voulais vous remercier de me donner ce rôle de médiateur aujourd'hui. Donc je parlerai moins longtemps que Jean-Charles, hein, c'est ce qui était prévu, assez peu de temps pour laisser du temps à la discussion, mais j'en suis néanmoins très heureux moi aussi, hein, de reprendre ce dialogue dans un cadre à la fois public et avec un objet important pour nous deux et au-delà, et qui nous permettra de retrouver des points communs et aussi des divergences, des différences d'objets. Pas de divergence d'approche, mais des différences d'objets qui changent quand même sans doute un tout petit peu les choses au passage. Je m'en réjouis d'autant plus. Moi, ça me fait renouer quand même, malgré ma spécialisation dans le XXe siècle, avec ce qui était au départ mon point de départ, qui méthodologiquement d'ailleurs a conduit à la notion de moment, dont vous avez parlé tout à l'heure, puisqu'il y a 20 ans, je faisais une maîtrise sur la République des Lettres au XVIIe siècle, avec Michel Serres, ici, donc, qui est d'ailleurs, bon, Michel Serres après moins bien tourné, disons, sur certains objets, notamment la philosophie française. Son livre sur la philosophie française poserait des problèmes qu'on ne va pas discuter ici, mais à l'époque, c'était un des grands médiateurs aussi entre le discours du savoir et le discours littéraire comme tel. On peut même dire qu'il a interprété le moment structuraliste dans ce sens d'une circulation des savoirs, et donc il a fourni certainement l'une des interprétations de ces passages dont on parle aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais faire très rapidement, effectivement, après avoir pris beaucoup de notes, comme j'en avais pris beaucoup sur les textes de Jean-Charles auparavant, c'est revenir d'abord sur trois points théoriques qui me semblent valoir à la fois pour le XVIIe siècle et pour le XXe siècle, qui me semblent même valoir en général, trois points théoriques dont les deux derniers me semblent d'ailleurs être à la fois partagés, mais aussi largement des enseignements qu'on doit dans sa pratique à Jean-Charles Darmon, et que je voudrais souligner en revenant pas dans toute la richesse de ce qu'il nous a présenté aujourd'hui. Mais ces trois points théoriques me conduiront ensuite à exposer très rapidement, ça devrait tenir dans le quart d'heure prévu, exposer quand même le contenu des trois moments philosophiques principaux du XXe siècle, jusqu'au moment d'aujourd'hui, qui serait le quatrième, et sur lequel, là, je diverge un peu avec le diagnostic de Jean-Charles, considérant que le moment structuraliste est en réalité derrière nous, et que nous avons à faire le diagnostic d'un nouveau moment philosophique, et caractérisé par une nouvelle relation entre philosophie et littérature, avec d'un côté la question du récit, initiée par Ricoeur, et sans doute portée à une certaine limite face au récit au récit de génocide, au récit du mal absolu, etc. Et d'un autre côté, la question de la fiction, qui revient en effet, mais plutôt à travers la philosophie analytique, la question du discours fictionnel, notamment à travers la reprise, en France aussi, des discours d'analyse de Goodman, de l'esthétique analytique et autres. Et là aussi, je pense qu'il faut pourtant la pousser au-delà de sa limite tranquille. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une esthétique trop tranquille, d'un côté du récit, de l'autre côté de la fiction, qu'il faut les bousculer un peu, que du côté du récit, c'est sans doute, j'allais dire malheureusement, les événements eux-mêmes qui poussent la littérature à une limite, et du côté de la fiction, il faudrait sans doute revenir à certaines des remarques issues de l'esthétique du XVIIe siècle, pour là aussi bousculer des spéculations logiques un peu faciles sur la fiction. Donc je voudrais d'abord revenir sur trois points théoriques, et d'abord sur une thèse générale, avant même ces trois points qui me semble qu'on partage depuis longtemps et qu'on partage avec d'autres. Et d'ailleurs, à côté de Serre, il faudrait peut-être citer notre professeur commun de philosophie, hein, Pessel, qui faisait aussi cette médiation en permanence sur le XVIIe siècle. Donc, ce qu'on partage, c'est l'idée que la relation entre littérature et philosophie n'est pas une relation fixe entre des termes définis à l'avance, mais au contraire que la variation de ces relations entre littérature et philosophie définit non seulement chacun des deux termes, de manière donc variable, mais à travers les relations entre ces deux termes, je dirais, chacun des grands moments de l'histoire de la culture. Et peut-être il faudrait revenir sur la notion même d'histoire de la culture, que je préférerais pour ma part à celle d'histoire des idées. Peut-être on pourrait y revenir dans la discussion. Et c'est donc ce qu'on partage, c'est l'idée que ces variations définissent ces relations et que ces relations, à leur tour, sont partie intégrante des grandes singularités historiques, ce qui fait qu'on peut distinguer des moments de manière plus ou moins discontinue, mais je crois que, en tout cas de mon côté, j'assumerai la discontinuité sans hésiter. Et c'est là qu'interviennent ces trois remarques. Parce qu'en effet, si l'on parle de moments, si l'on parle de variations, c'est pour définir des seuils, c'est parce que n'acceptons pas forcément l'idée d'une sorte de relation éternelle entre philosophie et littérature, ni d'une variation continue, mais il y a des ruptures. Donc là interviennent les trois points que je voulais souligner. Le premier point, c'est que peut-être quand même les ruptures, alors tu en as parlé tout à l'heure, les transitions, se marquent quand même par des ruptures, qui se marquent aussi par des polémiques, et je crois quand même que le seuil de passage d'un moment à l'autre, c'est toujours l'irruption d'une grande œuvre, et je dirais même, j'essaierai d'assumer ici cette thèse, d'une œuvre philosophique, qui bouleverse les choses, et qui bouleverse délibérément, parce qu'elle bouleverse son rapport à la vérité, au langage, à l'imagination, à la morale, à tout ce que tu as décrit comme étant les enjeux communs, évidemment on ne peut que le partager, qui bouleverse du coup le rapport entre philosophie et littérature. Je crois que de Platon jusqu'à Heidegger, et je n'hésiterai pas à revenir sur ce cadre, tous les grands moments philosophiques ont été institués d'ailleurs dans les deux sens, soit par un rejet de la littérature, et d'ailleurs les écrivains eux-mêmes reviennent toujours à Platon. Combien de fois j'ai entendu des poètes se plaindre que Platon les avait chassés de la cité, comme si vraiment ils s'en étaient pris personnellement à chacun des poètes français du XXe siècle. Bon, enfin, c'est pas ça. Vous verrez, à chaque, surtout les poètes sont directement visés encore aujourd'hui par Platon. Donc que ce soit Platon d'un côté ou Heidegger à l'autre extrême, qui lui au contraire, alors non seulement intègre la littérature à la philosophie et à la cité, mais presque au point de produire les rejets, là aussi pour des raisons inverses, hein, sentir absorbé dans la philosophie ou porté à la dignité de majusculaire hein, du poète, du prophète ou du grand intercesseur. Mais dans les deux cas, et entre les deux, il faudrait situer le moment cartésien, il me semble, qui est capital, le moment bergsonien, peut-être aussi le moment sartrien au cœur du XXe siècle, et j'y reviendrai dans un instant. Eh bien, il y a quand même toujours, à mon avis, une œuvre qui, en tout cas, prend acte d'une rupture, si elle ne la produit pas elle-même, et qui joue un rôle décisif. Et ici, je crois qu'il n'y aurait pas le moment anti-cartésien ou les enjeux dont nous parle Jean-Charles, s'il n'y avait pas quand même l'œuvre de Descartes, qui rétrospectivement, d'ailleurs, fait apparaître Montaigne à la fois comme un interlocuteur et comme un adversaire, et notamment par certains rapports entre littérature et philosophie, dont Malebranche, authentiquement cartésien, au fond, n'était que dérouler les attendus. Cependant, et c'est la première leçon de Jean-Charles, et c'est celle que je partage le plus profondément, sans aucun doute, un moment philosophique n'est jamais constitué par une œuvre singulière et isolée. Elle n'est pas plus un état général du savoir qu'une œuvre météoritique ou isolée. Il est constitué, c'est comme ça que pour ma part je le définirais en tout cas, par une pluralité d'œuvres présentant des solutions opposées, profondément opposées, à un certain nombre de grands problèmes communs. Et en ce sens, il me semble en effet que Descartes fait partie de ces grands massifs qui font illusion. Le XVIIe siècle n'est pas évidemment caractérisé par le seul Descartes. Et l'une des grandes leçons de l'exposé de tout à l'heure, mais de tout le travail de Jean-Charles et d'autres, c'est bien entendu d'avoir réintégré dans ce débat la figure de Gassendi au cœur du débat entre littérature et philosophie. Il y a sans doute aussi une littérature leibnizienne, une littérature spinoziste, surtout au XVIIIe siècle. Oui. Vous m'avez passé du papier, je voulais en... Mais je crois qu'en effet, le débat entre Descartes et Gassendi, et j'allais dire à armes égales quand même sur des enjeux de fond, est l'une des clés du moment philosophique de, disons, la première moitié du XVIIe siècle en France. Il faut ici souligner que Gassendi n'est pas Épicure. Hein, même si La Fontaine parle de Descartes comme du rival d'Épicure, c'est en fait en tant que rival de Gassendi, bien entendu, puisque ceux dont Gassendi traite, ce sont des enjeux contemporains déplacés par les savoirs modernes, à travers lesquels il reprend et renouvelle la problématique proprement épicurienne. Il y a donc ici, évidemment, une réactualisation de certaines figures, qui peut d'ailleurs être un piège. On a l'impression que Descartes, c'est la nouveauté, et Gassendi, c'est le retour contre cette nouveauté à une antiquité. Mais en réalité, Descartes lui-même reprend beaucoup aux stoïciens. Gassendi n'est pas épicurien au sens épicurien antique du terme. Bref. Donc, ce sont bien des figures contemporaines, des œuvres contemporaines et qui définissent un moment par des problèmes communs. Et je crois que cette notion de problème est essentielle. J'en ai relevé trois à la toute fin, l'imagination, la morale et le langage. Je crois que s'il n'y avait pas de problème commun, on ne pourrait pas parler de moment. Mais au-delà de ces grandes œuvres, la deuxième leçon de ton exposé, il me semble, mais c'est par là qu'on rejoint la littérature aussi, c'est la dissémination vers des œuvres singulières. Et en effet, les grandes œuvres s'opposent par des philosophèmes majeurs, mais les œuvres singulières ont toutes des pratiques de dissémination, de différenciation, et c'est là que, au fond, ce que les littératures et la philosophie ont en commun, c'est à la fois de partager un moment, de trancher sur les grands philosophèmes, mais aussi d'être constituées par des œuvres singulières irréductibles les unes aux autres. Et ici, donc, on s'aperçoit que l'œuvre littéraire singulière, il faut sortir même de la différence intra-philosophique, il y a une différence entre philosophie et littérature, et dans la littérature, il y a des œuvres singulières qui ne sont pas seulement des philosophèmes singuliers, mais qui, à mon avis, quand ce sont des grandes œuvres, comme celle de La Fontaine, par exemple, impliquent une position philosophique singulière, ne sont pas seulement une sorte de variation sur un thème commun, mais une véritable singularité philosophique à part entière, de même que, je dirais, quand l'œuvre philosophique est singulière, elle est aussi une écriture singulière. Et donc, je dirais que dans les points extrêmes, eh bien, évidemment, Descartes est un des très grands écrivains de la langue française, et inversement, on peut partir sur une île déserte avec les fables de La Fontaine, on aura une sagesse portative complète. Donc, voilà ces trois points que je voulais souligner, et je crois que la dissémination, c'est très important, parce que sans le moment de la singularité, eh bien, on n'a pas atteint le point, la pointe extrême des rapports entre littérature et philosophie. Ce sera pareil, pas Anne-Simon qui me démentira, si on dit que Proust est bergsonien ou anti-bergsonien, il y a du vrai et du faux, mais Proust est Proust, et d'une certaine manière, Bergson est Bergson. Donc ces trois points, je voulais y revenir, je crois que c'est la grande leçon aussi des variations textuelles, et c'est pour ça qu'on a besoin de, des œuvres et des textes sur les œuvres. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça c'est nos points communs, je voudrais revenir rapidement sur les différents moments philosophiques du XXe siècle, tels qu'on pourrait les définir sur le fond de ces points communs. Donc tu as très bien repris le moment cartésien et anti-cartésien, disons le moment de la première moitié du XVIIe siècle. Il faudrait quand même, à mon avis, montrer comment Spinoza est plus qu'un cartésien, l'introduction à un nouveau moment philosophique et aussi philosophico-littéraire. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Donc toutes les leçons ne sont tirées qu'au XVIIIe siècle. Je voudrais très rapidement, mais c'est audacieux, mais au fond c'est quand même indispensable pour jouer mon rôle de médiateur maintenant, en venir au XXe siècle. Et je voudrais distinguer, comme je suis amené à le faire par ailleurs, trois grands moments au XXe siècle, que je caricaturerais par un problème commun majeur, par une figure singulière et par un certain rapport entre littérature et philosophie dans ce problème majeur et dans cette figure singulière un peu caricaturée, mais pour aller très vite. Le premier, c'est évidemment le moment 1900. Et je dirais que le problème ici, ce contre quoi se dressent les grands auteurs du moment 1900 en France, il s'agit de Bergson, de Brunswick ou d'Alain, et ils rejoignent par là les grands philosophes allemands de même époque, Husserl d'un côté ou Nietzsche, et d'un autre côté, en Angleterre, Russell ou James. Ce que quoi il se dresse, c'est une sorte de positivité du savoir scientifique, incarné par un certain naturalisme également, par Taine, par Renan, par le Sainte-Beuve contre lequel se dressera Proust, et d'un autre côté, une sorte de critique sommaire du savoir, au nom d'un certain irrationalisme qui s'oppose précisément à cet naturalisme. Et parfois le rejoint d'ailleurs, comme Barrès rejoint Taine, sans s'apercevoir qu'au fond ils se contredisent, mais comme au fond cette sorte d'âme dans l'histoire des idées, il me semble, enfin il y aurait beaucoup à dire là-dessus, la contradiction n'apparaît pas. Et donc la thèse de Bergson par exemple, mais c'est aussi la thèse d'Alain de Brunswick en France, c'est l'idée que certaines expériences privilégiées ne sont pas seulement des faits comme les autres, mais nous donnent à saisir un absolu, et pour saisir lequel on a besoin de sauter par-dessus l'obstacle pragmatique, l'obstacle de l'action, l'obstacle du langage ordinaire également. Ce qui donne à Bergson, je vais très vite, une place très paradoxale dans le rapport entre philosophie et littérature. En effet, Bergson, d'une certaine manière, est à la fois en rivalité, met la philosophie en rivalité par rapport à la littérature, et en même temps redonne à la littérature un statut philosophique, ce pourquoi d'ailleurs on n'aura pas tort de le rapprocher de Proust, quand même. En effet, la saisie de l'absolu dans une expérience privilégiée est réservée par Bergson à la philosophie. C'est la philosophie qui saisit dans l'expérience du temps, par-delà sa spatialisation, par-delà la science, par-delà le langage, un absolu. Mais en même temps, la preuve que la saisie de l'absolu est possible, c'est dans le sensible, dans l'expérience, c'est l'art, c'est la littérature. La littérature a toujours déjà prouvé la possibilité de la métaphysique, d'une certaine façon, et donc il y a à la fois une complémentarité, en un sens, et une rivalité entre philosophie et littérature autour de Bergson dans ce moment 1900 qu'il faut faire aller, disons, de 1890 jusqu'à 1914. Et qu'il s'agisse de Peggy, de Proust, d'un certain type d'esthétique, au fond, partout, ce problème de la saisie d'un absolu dans l'expérience sensible, par-delà les obstacles de la pratique, se retrouve un peu partout, là aussi, pour ou contre. C'est un problème, à mon avis, très important, et c'est à la fois une rivalité et une complémentarité entre philosophie et littérature, de telle sorte que l'œuvre de Proust apparaît à la fois comme irréductible à celle de Bergson, mais comme une solution différente du même problème. Même problème du temps, même problème du rapport de l'absolu et du sensible, etc. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, je laisse ce point de côté. L'ambition métaphysique, en tout cas, fait partie des grands enjeux de ce moment des notions. En revanche, dans le moment suivant, je vais vraiment au galop, hein, mais dans le moment suivant, qui est le moment philosophique de la Seconde Guerre mondiale, dans le moment suivant, au contraire, on renonce à la saisie de l'absolu, et le rôle de la philosophie est de saisir le concret, sans fondement métaphysique, qu'il s'agisse de la description phénoménologique, qu'on va chercher chez Husserl, comme le font Sartre et Merleau-Ponty, ou de la saisie de l'histoire pour laquelle on s'inspire de Hegel ou de Marx. De telle sorte que, à la limite, cette renonciation à l'absolu et cette description du concret amène la philosophie à voir dans la littérature la vraie réalisation d'elle-même. La philosophie se réalise comme littérature, à la fois comme description du concret et comme action concrète, comme action historique concrète. C'est le thème de la littérature engagée que Sartre définit dans « Qu'est-ce que la littérature ?» en 1947. Là, Sartre est la figure majeure à tous égards, mais on trouverait aussi bien chez Camus, qui renonce délibérément à la philosophie pour la littérature. La philosophie n'a qu'une chose à dire, c'est qu'elle n'a rien à dire. Mais celui qui maintient la figure de l'homme, c'est l'écrivain, c'est l'artiste. Et même chez Merleau-Ponty, Merleau-Ponty qui dit très clairement que la philosophie doit se réaliser comme art concret chez Cézanne. Alors il parle plus de la peinture que de la littérature, mais il en parle quand même beaucoup. Il parle de Proust d'ailleurs. Bon, bref, disons ce terme d'ailleurs hegelien et marxiste, de la réalisation du théorique dans le pratique, donne à la littérature une vocation qui n'est plus celle d'une rivalité, mais même d'un dépassement de la philosophie. Et on a l'impression d'ailleurs que ce dépassement, la littérature en a peut-être souffert, dans la mesure où elle est investie d'une mission aussi bien politique que métaphysique, qui peut-être la dépasse. Mais c'est un point évidemment très important qui justifie le fait que, si bien Camus que Sartre, ont mené les pratiques, mais pas à la manière de Montaigne, pas dans les mêmes textes, et au contraire en théorisant en philosophie ce que devait être la littérature qu'ils devaient pratiquer de manière pure, justement, concrète, pour agir sur les hommes et pour ses... Alors, le troisième moment, je vais très vite, là aussi ça se marque par des ruptures, c'est le moment philosophique des années 60, qui se caractérise non plus par un rapport entre l'existence et le concret, ou l'histoire, mais par une pure immanence au langage, à travers le modèle linguistique de la structure. Le modèle linguistique de la structure, rabattu par Roland Barthes sur l'expérience de la littérarité, précisément, et d'ailleurs à travers, au tout début, une lecture de Camus. Dans le degré zéro de l'écriture, l'un des premiers exemples que donne Barthes, c'est l'écriture blanche de L'étranger de Camus, et où, progressivement, dans l'immanence de la structure linguistique et l'autoréférence du texte littéraire, vont constituer un modèle où, effectivement, il n'y a plus rivalité, il n'y a plus non plus complémentarité, il y a indiscernabilité de la philosophie et de la littérature. La philosophie doit renoncer à tout privilège de vérité, puisqu'il n'y a pas de vérité, puisque le langage n'est pas de référence à un objet extérieur, ni à un sujet intérieur, mais une autoréférence. La vraie philosophie est la philosophie qui se reconnaît comme production de sens dans le langage et comme langage. C'est en tout cas l'interprétation, disons, des philosophies de la différence. Dont Derrida est sans doute celui qui est allé le plus loin. Alors il ne faut pas faire de Derrida la seule figure, elle est capitale à mon avis, mais ça n'est pas la seule de ce moment des années 60. Par exemple, Deleuze a une toute autre version des choses. Pour Deleuze aussi, le sens se fait dans l'immanence du langage, par un travail de création, pas seulement par un travail de différence, mais par un travail véritable de création, de prolifération. Mais il reste une différence entre la création littéraire et la création philosophique, ce qu'il appelle la création de concept, pour définir la philosophie, et la création de percept, pour définir l'art. Donc, dans tous les cas, on est dans le signe, on ne sort pas du signe, mais on ne fait pas le même travail. Et donc, dans tous ces cas, il y a un problème commun qui retentit sur la relation entre littérature et philosophie, mais qui a des solutions variées et opposées. Ne confondons ni Bergson et Nietzsche, ni Sartre et Camus, ni Deleuze et Derrida, ils sont très opposés sur tous ces points. Et ce à quoi je voulais en venir, alors c'est là qu'on rejoint Tatel sur le moment, parce que je crois en effet que la situation n'est pas si favorable que ça et qu'il faut un effort pour revenir aujourd'hui à la relation profonde entre littérature et philosophie, celle où les grandes œuvres philosophiques à leur pointe extrême et les grandes œuvres littéraires à leur pointe extrême communiquent, pourraient de nouveau communiquer. Je crois que ça n'est plus véritablement le cas. On est aujourd'hui sorti de ce modèle d'ailleurs qui a produit ses propres excès, peut-être, de l'immanence du signe et de... Alors, c'est pas la polémique de Habermas qui est sans doute la plus intéressante, parce que Habermas n'a rien donné d'autre, disons, comme alternative. Celui qui a donné une alternative, c'est Ricoeur. C'est Ricoeur qui a précisément dressé le modèle du récit contre celui du texte. Le modèle du récit qui retrouve une certaine constitution du sujet dans la narrativité, qui retrouve une certaine extériorité dans le langage, et d'ailleurs aussi un certain rapport à l'éthique, et même au cosmologique, puisque le récit se fait sur le fond du temps. Et le récit est une certaine manière d'installer l'existence humaine sur le fond du temps cosmique. Donc Ricoeur retrouve en effet véritablement une fonction, dans le langage même, une fonction qui dépasse cette fonction auto-référentielle du structural et du moment philosophique précédent. Et l'autre modèle qui aujourd'hui a rompu avec cette sorte d'auto-référence littéraire, c'est le modèle de la philosophie analytique, notamment qui refonde sur à nouveau frais la différence entre réalité et fiction. Et c'est pas un hasard, à mon avis, si cette question de la fiction redevient centrale aujourd'hui. C'est précisément parce que, sans elle, tu l'as bien montré, au fond, il n'y a plus de relation possible entre littérature et philosophie. C'est pourquoi, d'ailleurs, certaines philosophies littéraires ou littérature philosophique des années 60 a brouillé les cartes, parce que, d'une certaine manière, on ne peut plus brouiller aujourd'hui entièrement les frontières entre fiction et réalité. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, cette double esthétique du récit et de la fiction est encore bien sage, mais n'a pas trouvé ses enjeux majeurs. Pourtant, ils y sont. Ils y sont, notamment quand le récit littéraire touche à une certaine forme d'extrémité, et on le voit bien aujourd'hui. C'est Michel Deguy qui remarquait qu'aujourd'hui, les auteurs les plus cités sont Paul Celan, Robert Antelme, Chalamoff et d'autres. C'est parce que le récit, là, touche à quelque chose d'absolument pur. Il est assez étonnant que Ricoeur n'en ait pas parlé, parce que le récit ici n'est plus seulement une constitution d'une identité subjective et au fond démocratique. Parce que tout ce retour au récit est contemporain d'un retour aux droits de l'homme, d'un retour au sujet, aux citoyens, à l'état de droit. Et c'est vital, au fond. Ça a eu une fonction politique très importante. Mais bon, il y a aussi le récit où ce sujet est brisé. Et je crois que de même, l'esthétique de la fiction n'a pas encore retrouvé tout ce dont tu parles. Et je crois qu'il y a quelque chose de très profond dans ce retour au XVIIe siècle. Je dirais presque que la rationalité contemporaine n'a pas produit encore son épicurisme, ou son gassendisme, ou sa fable. Et nous sommes en attente d'une vraie fiction littéraire. Cette attente, d'ailleurs, elle se voit, il y a des effets étranges dans la science-fiction, dans le cinéma, etc. Mais je crois qu'on est dans une littérature assez sage, dans une philosophie qui enregistre cette sagesse, qui se voit ébranlée. Donc moi, j'aurais envie de dire qu'au fond, il y a eu des modèles fictionnels très, très profonds au XXe siècle, évidemment. Vous êtes mieux placés que moi pour le savoir. Ils ont accompagné ces différents moments. Il y a peut-être toujours une sorte de revendication, disons, métaphysique, et une revendication anti-métaphysique du rapport entre littérature et philosophie. Il y a eu les versions bergsoniennes et les versions heideggeriennes de la relation métaphysique, mais on n'a pas aujourd'hui de vraies versions anti-métaphysiques et revendiquant une pratique extrême de la fiction. Voilà, moi, le diagnostic que je tirerais de... Bon, alors, il y a sûrement beaucoup de points communs, beaucoup aussi de différences entre ce qu'on a dit l'un et l'autre. Je ne sais pas si j'ai joué mon rôle de médiateur, mais en tout cas, je m'arrête là.
Merci. Pardonnez-moi, je finis ma phrase. Merci. Non, je crois que c'est plus qu'un médiateur, c'est une sorte de...
plus qu'une médiation, je veux dire, mais c'est aussi une médiation, c'est-à-dire que ça ressaisit les questions qu'avait avancé, ce qu'a développé Jean-Charles, par rapport au XXe siècle, ce qui est difficile à faire pour nous, parce que je crois que ce que vous nous apportez de très précieux, en fait, c'est des hypothèses sur une périodisation, une configuration historique, à partir d'éléments qu'on connaît assez bien, mais qu'on n'a pas les moyens, pas les moyens de penser directement sous cette forme-là. Et de ce point de vue-là, c'est très précieux, parce que disons qu'à partir de là, on peut commencer à réfléchir, disons, à partir